Bonjour à tous et à toutes. Je vous souhaite un excellent sabbat. Vous avez peut-être entendu l'expression jérémiade. Jérémiade que le dictionnaire Larousse définit comme une plainte, une lamentation persistante et importune, surtout quand il s'agit de jérémiade au pluriel. Et le magazine « Ça m'intéresse » dit ceci. Cette expression doit son origine au prophète Jérémie qui vivait au 7e siècle avant Jésus-Christ, une époque particulièrement douloureuse pour les Juifs. Ces prophéties annonçant toujours des catastrophes comme la prochaine victoire des Babyloniens ou l'exil des Juifs, il devint vite impopulaire au sein de son peuple et s'en plaignait à Dieu. L'énumération de ses souffrances a donné naissance aux jérémiades, qui désignent des plaintes répétées finissant par agacer ceux qui les écoutent. Cris de cœur légitimes chez Jérémie, elles sont devenues des gémissements lassants dans le langage actuel. Nous allons regarder ceci de plus près pour voir de quoi il retourne, pour voir ce que la Bible dit exactement. Et aujourd'hui, j'ai voulu vous parler sur Jérémie, sur ses épreuves et sur ses bénédictions, choses qui ne sont pas très très connues. Il avait aussi des bénédictions, la protection de Dieu, et nous allons voir aussi la fin de sa vie. Et le livre de Jérémie est le livre le plus long dans la Bible, si on compte le nombre de mots dans le livre. Il y a 33 002. Le livre de Jérémie dévance le livre de Genèse, qui a 32 046 mots. À premier abord, on ne va pas forcément voir toutes les bénédictions de Jérémie. Jérémie était un prophète, un homme de Dieu, avec une relation très intime, très profonde avec son Dieu. Et Jérémie a prêché pendant une quarantaine d'années. Une quarantaine d'années, nous voyons le début de Jérémie. Jérémie chapitre 1 et le verset 1. Nous lisons ceci, parole de Jérémie, fils de Hilkija, l'un des sacrificateurs d'Anatot, dans le pays de Benjamin. La parole de l'Éternel lui fut adressée au temps de Josias, fils d'Amon, roi de Juda, la 13e année de son règne. Donc, ceci nous donne déjà une indication de la date. Aux environs de 627, 626, avant Jésus-Christ. Et Josias était un homme juste qui était apparemment proche de Jérémie, et la grande réformation du roi a commencé dans son 18e année, donc 5 ans après que Jérémie a commencé à prêcher. Et nous sommes familiers avec la Pâque qu'il a instituée à la 18e année de son règne. Il était influencé par Jérémie. Nous revenons à Jérémie chapitre 1 verset 3 cette fois-ci pour voir la suite qui nous donne la durée de sa prédication. Et au temps de Josachim, fils de Josias, roi de Juda, jusqu'à la fin de la 11e année de Sédécias, fils de Josias, roi de Juda, jusqu'à l'époque où Jérusalem fut emmené en captivité au 5e mois. Il y a 3 rois qui sont mentionnés ici. Mais si vous regardez, je m'y rapporte pas, 2 rois chapitre 23 et 2 rois chapitre 24, nous avons la succession complète, parce qu'il y a 2 rois dans cette succession qui ont régné très peu de temps. C'est certainement pour ça qu'il n'y a que les deux autres rois qui sont mentionnés dans Jérémie chapitre 1. Josias a régné 31 ans à Jérusalem. 31 ans à Jérusalem. Joachaz a régné, ça c'est le prochain roi. Comme j'ai dit, vous pouvez regarder ceci dans 2 rois chapitre 23 et 2 rois chapitre 24, où vous avez une succession assez succincte. Et Josias, donc il a régné 31 ans à Jérusalem, Joachaz, qui l'a suivi après sa mort, n'a régné que 3 mois. Il était destitué. Et Eliakim, son frère, c'est-à-dire ce qui était connu aussi sous le nom de Josachim, l'a succédé. Il a régné 11 ans. Il a été emmené en captivité. Son fils, Josachim, a régné que 3 mois et 10 jours. Et lui aussi, il a été emmené en captivité. Et puis le dernier roi, il y en avait 5 dans cette succession, le dernier roi qui a régné, le dernier roi de Juda qui a régné, après que Nebuchadnezzar l'a établi roi, c'est Sédécias. Il a régné 11 ans. C'était le frère de Josachim. Et ce qui est intéressant dans ce récit que nous trouvons dans 2 rois chapitre 23 et 2 rois chapitre 24, c'est qu'il y a la même expression qui revient sans cesse. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel entièrement comme avait fait ses pères, ou comme avait fait son père, et avec Sédécias, c'est marqué comme avait fait Josachim. Donc nous avons cette expression plus ou moins identique qui revient 4 fois à propos des 4 rois. De Juda, les derniers rois de Juda. Et si nous faisons le calcul, Josias a régné 31 ans à Jérusalem. On a vu tout à l'heure que Jérémie a commencé, Dieu lui a parlé dans la 13e année du règne de Josias. Si nous déduisons 13 de 31, ça nous fait 18. 18 plus 11 plus 11, ça nous fait 40, plus quelques mois pour les 2 autres rois. Ça nous donne une idée de la souffrance déjà de Jérémie. Il a persévéré à travers ses 40 ans, et c'est bien marqué dans la Bible, par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. C'est capital, et Jérémie a persévéré. Et même après cette période, il a prophétisé. Si vous regardez Jérémie 43 et 44. Mais le laps de temps, 40, c'est synonyme d'épreuve. Et le caractère de Jérémie était remarquable. Il était consciencieux et il avait de la compassion pour son peuple. Il était émotionnel même. Il était, pour ainsi dire, entre guillemets, traumatisé par la souffrance des prophéties qu'il a lui-même prononcées, que Dieu lui a données, par le comportement de son peuple. Il était sensible. Il était consciencieux. Jérémie, chapitre 23, et le verset 9. Et à travers tout ça, à travers ses souffrances, à travers le fait qu'il était sensible aux souffrances de son peuple, il reconnaissait la sainteté des paroles de Dieu. Nous pouvons voir ça, et je m'y rapporte pas, mais dans Jérémie chapitre 23, et le verset 9, à la fin du verset. Jérémie chapitre 23, et le verset 9, où c'est marqué « À cause de l'Éternel et à cause de ses paroles saintes, il était fidèle à Dieu. » Il était aussi un patriote. Il avait fait allégeance à Dieu. Il a même dit dans Jérémie chapitre 15 et le verset 16, je m'y rapporte pas non plus, tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur. mais il était aussi un patriote. Ça lui faisait mal. Il aimait le peuple, mais il haïssait leurs péchés. Et les péchés de Juda à l'époque, les péchés étaient terribles. Il faut comprendre Jérémie dans ce contexte où Dieu lui a demandé d'intervenir, de prêcher. Les péchés de Juda sont allés très loin. Jérémie chapitre 8 et le verset 10. C'est pourquoi, et les punitions aussi suivaient. Jérémie chapitre 8 et le verset 10. C'est pourquoi je donnerai leur femme à d'autres et leur champ à ceux qui les déposséderont, car depuis le plus petit jusqu'au plus grand, tous sont avides de gain. Une société vraiment corrompue. Tous sont avides de gain, depuis le prophète jusqu'au sacrificateur, tous usent de tromperie. C'est une très forte condamnation de la société de Juda à l'époque. Et la punition était très sévère. Toujours le même chapitre, le verset 22. N'y a-t-il point de baume en Galade? N'y a-t-il point de médecin? Pourquoi donc la guérison de la fille de mon peuple ne s'opère-t-elle pas? Parce que Galade était une région qui était connue justement pour le fait de pouvoir soigner la résine du sapin baumier poussant en Galade avait des qualités curatives. Et on pose la question parce que Israël n'avait donc pas de baume pour elle-même. Elle ne pouvait pas être guérie. Et effectivement, il n'y a pas une guérison spirituelle pour un peuple qui s'obstine à se rebeller contre Dieu. Et la lamentation du prophète continue dans le chapitre 9. Le verset 1, déjà, où on voit le caractère de Jérémie. « Oh, si ma tête était remplie d'eau et si mes yeux étaient une source de larmes, je pleurerais jour et nuit les morts de la fille de mon peuple. » Et puis continue dans le verset 2. « Oh, si j'avais au désert une cabane de voyageurs, j'abandonnerais mon peuple, je m'en éloignerais car ce sont tous des adultères, c'est une troupe de perfides. Juda était tombé dans une déchéance morale. Verset 3. Ils ont la langue tendue comme un arc et lancent le mensonge. Ce n'est pas par la vérité qu'ils sont puissants dans le pays, car ils vont de méchanceté en méchanceté. Et ils ne me connaissent pas, dit l'Éternel. Verset 4. Que chacun se tienne en garde contre son ami et qu'on ne se fie à aucun de ses frères, car tout frère cherche à tromper et tout ami répand des calomnies. Dans un tel état d'anarchie, pour ainsi dire, les liens de confiance mutuelle sont relâchés et bien sûr, la suspicion prend sa place. Verset 5. Ils se jouent les uns des autres, ils ne disent point la vérité, ils exercent leur langue à mentir, ils s'étudient à faire le mal. Ils sont vraiment portés vers le mal. Ta demeure est au sein de la fausseté. C'est par fausseté qu'ils refusent de me connaître, dit l'Éternel. Ils sont tombés très très bas. Ils ont rejeté Dieu et il y a un manque d'honnêteté dans leurs relations les uns avec les autres. C'est une destruction morale du pays. Parce que, bien entendu, ils avaient autrefois la connaissance de Dieu, et avec la connaissance vient la responsabilité. Dieu les a avertis beaucoup à travers Jérémie. Nous voyons aussi dans Jérémie chapitre 17, je prends ici que quelques passages seulement pour décrire l'atmosphère, si je puis dire, dans le pays de Juda à l'époque de Jérémie. Jérémie chapitre 17 et le verset 1. Jérémie chapitre 17 et le verset 1. Le péché de Juda est écrit avec un burin de fer avec une pointe de diamant. Il est gravé sur la table de leur cœur et sur les cornes de vos autels. Jérémie insiste ici sur la nature indélébile du péché de Judas. Un burin de fer, c'est-à-dire un stylo de fer, un ciseau en fer pour couper des inscriptions sur des tables de pierre, et la pointe d'un diamant, les anciens connaissaient bien les pouvoirs du coupe du diamant. Il parle aussi des autels. Il y avait de nombreux autels que les Juifs avaient érigés à de faux dieux. Et bien que Josias a purgé le pays de ces autels, sous le règne de Josachim, ils s'étaient multipliés à nouveau et étaient les preuves extérieures de l'idolâtrie de Juda. C'est ce que nous voyons ici. Cette parole signifie que le péché est enraciné dans le cœur des hommes de Juda à l'époque et qu'il ne pouvait plus être extirpé. Il y avait un endurcissement de la part de Juda à l'époque. On le peut comparer avec la réaction des païens dans le chapitre 16 et le verset 19, où nous lisons ceci. « Éternel, ma force et mon appui, mon refuge au jour de la détresse, les nations viendront à toi, les extrémités de la terre viendront à toi. » Ils sont ouverts, ils ne sont pas endurcis. « Les nations viendront à toi, les extrémités de la terre, et elles diront, « Nos pères n'ont hérité que le mensonge de vaines idoles qui ne servent à rien. » Et ici, nous avons une nation, la nation de Juda, le peuple de Dieu, qui s'est endurci et où le péché de Juda est écrit avec un burin de fer. Si nous regardons quelques versets plus loin, toujours le même chapitre, chapitre 17 et le verset 5, « Ainsi parle l'Éternel, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. » Et Juda avait détourné son cœur de l'Éternel. Il est comme un misérable dans le désert. Il ne voit point arriver le bonheur. Il habite les lieux brûlés du désert, une terre salée et sans habitants. Et malgré les dispositions de Juda à l'époque, malgré leur endurcissement, Dieu continue à montrer sa voie. Il montre les bénéfices de sa voie à partir du verset 7. « Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte et il ne cesse de porter du fruit. » La voix de Dieu est une voix qui fonctionne, entre guillemets. Ça nous permet d'avancer correctement dans la vie. Verset 21. Toujours le chapitre 17 et le verset 21. Ainsi parle l'Éternel, prenez garde à vos armes, ne portez point de fardeau le jour du sabbat, et n'en introduisez point par les portes de Jérusalem. Parle du sabbat, verset 23. Dieu leur dit ce qu'il faut qu'ils fassent, verset 23. Mais ils n'ont pas écouté, c'est d'endurcissement encore, ils n'ont pas écouté, ils n'ont pas prêté l'oreille, ils ont raidi le cou pour ne point écouter et ne point recevoir instruction. C'est même endurcissement. Verset 24. Si vous m'écoutez, dit l'Éternel, si vous n'introduisez point de fardeau par les portes de cette ville le jour du sabbat, si vous sanctifiez le jour du sabbat, et ne faites aucun ouvrage ce jour-là. Verset 25, Dieu, justement, allait bénir. Il y a toujours cette libre arbitre, parce que Dieu dit si, mais dans le verset 25, alors entreront par les portes de cette ville les rois et les princes assis sur le trône de David, montés sur les chars et sur les chevaux, eux et leurs princes, les hommes de Juda et les habitants de Jérusalem. Malgré donc tout ce péché que nous venons de voir, et on ne voit que quelques aperçus, Dieu aurait béni si les gens avaient changé. Dieu tend la main, si je puis dire. Mais les gens n'ont pas saisi cette main. Verset 26. On viendra des villes de Juda et des environs de Jérusalem, des pays de Benjamin, de la vallée de la montagne et du Midi pour amener des holocaustes et des victimes, pour apporter des offrandes et de l'encens, et pour offrir des sacrifices d'action de grâce dans la maison de l'Éternel. Mais, je les mets en garde, verset 27, mais si vous n'écoutez pas quand je vous ordonne de sanctifier le jour du sabbat, de ne porter aucun fardeau, de ne point en introduire par les portes de Jérusalem le jour du sabbat, alors j'allumerai un feu aux portes de la ville, et il dévorera les palais de Jérusalem, et ne s'éteindra point. Il y a une pénalité quand nous transgressons les lois de Dieu. Je vous ai donné ces quelques passages pour vous montrer, pour que nous puissions avoir une idée de la gravité de la situation en Juda à l'époque, pendant que Jérémie prêchait. C'était très grave, et c'est pour ça qu'ils allaient aller en captivité s'ils ne se repentaient pas, et ils ne se repentaient pas. Mais il y avait aussi, en même temps, il y avait les souffrances de Jérémie lorsqu'il prêchait. Il y avait ses souffrances, des souffrances physiques et des souffrances morales. Nous pouvons avoir un aperçu de ces épreuves, déjà sur le plan physique, et nous pouvons comprendre pourquoi il y a eu ces plaintes de la part de Jérémie. Jérémie risquait sa vie à plusieurs reprises. Même les gens de sa ville natale conspiraient pour le faire mourir. Mais Dieu était là. Nous sommes familiers avec le fait qu'à un moment donné, Jérémie était dans une citerne et qu'il s'enfonçait dans la boue. Et qu'il fallait même par la suite, quand on l'a délivré, des cordes pour le faire monter de la citerne. Mais en plus, Jérémie souffrait énormément moralement. Moralement, pour voir le péché de son peuple et le fait qu'il ne se repentait pas, qu'il ne changeait pas. Lamentation de Jérémie, chapitre 2, et le verset 11, nous dit ceci. Je m'y rapporte pas. Lamentation de Jérémie, chapitre 2, verset 11. Mes yeux se consument dans les larmes, mes entrailles bouillonnent, ma bile se répand sur la terre à cause du désastre de la fille de mon peuple, des enfants et des nourrissons en défaillance dans les rues de la ville. Il voyait cette souffrance, le châtiment de Dieu, et il souffrait aussi. Il aimait son Dieu, et il aimait aussi son peuple. Il avait un intérêt profond pour son peuple. Il avait l'empathie pour son peuple. Et par voie des conséquences, il souffrait davantage. Jérémie chapitre 8, le verset 18, nous donne une idée de sa souffrance morale. Jérémie chapitre 8 et le verset 18, « Je voudrais soulager ma douleur. Mon cœur souffre au-dedans de moi. Voici les cris, verset 19, voici les cris de la fille de mon peuple retentissent sur la terre lointaine. L'Éternel n'était plus à Sion, n'a-t-elle plus son roi au milieu d'elle? Pourquoi m'ont-ils irrité par leurs images taillées par des idoles étrangères? » Jérémie n'exulte pas, ne jubile pas parce que ses prophéties se réalisent. Il a le cœur brisé à cause de la souffrance de ses compatriotes. L'amour pour Dieu et l'amour pour son prochain, pour sa nation. Jérémie chapitre 12. Et nous voyons ici un reflexe, si je puis dire, de Jérémie dans ses souffrances. Il confie son état d'âme à Dieu. Jérémie chapitre 12 et le verset 1. Tu es trop juste, Éternel, pour que je conteste avec toi. Je veux néanmoins t'adresser la parole sur tes jugements. Pourquoi il y a des choses qu'il ne comprenait pas pleinement? Pourquoi la voix des méchants est-elle prospère? Pourquoi tous les perfides vivent-ils en paix? Tu les as plantés, ils ont pris racine, ils croissent, ils portent du fruit. Tu es près de leur bouche, mais loin de leur cœur, et toi, Éternel, tu me connais. Tu me vois, tu sens mon cœur qui est avec toi. Donc, cette relation intime avec Dieu. Et bien ensuite, il demande quelque chose. Enlève-les comme des brebis qu'on doit égorger, prépare-les pour le jour de carnage. Mais il est dérangé par ce qui se passe. Il est affecté. Et il dialogue avec Dieu. Il s'ouvre. Quand il a des questions, quand il est découragé, et c'est ici, c'est un exemple, et Dieu répond. Il ne répond pas, probablement pas, comme Jérémie avait espéré, mais Dieu répond dans le verset 5, « Si tu cours avec des piétons et qui te fatiguent, comment pourras-tu lutter avec des chevaux si tu ne te crois en sûreté que dans une contrée paisible? Que feras-tu sur les rives orgueilleuses du Jourdain ?» Autrement dit, Dieu est en train de lui dire ici, au lieu de donner une réponse avec du réconfort, Dieu dit que les choses vont s'empirer. Et il emploie la métaphore d'une course. Le fait est que Dieu avait déjà dit à Jérémie qu'il allait en prendre soin, qu'il allait le protéger. Donc maintenant, Dieu s'attend à ce que le prophète serre ses dents, si je puis dire, et qu'il le supporte, qu'il développe la force, justement. C'est un appel pour développer du caractère. Et que ce qui venait de subir dans le chapitre 11, avec les gens d'Anatot, allait le préparer pour des temps plus difficiles à l'avenir. Et bien entendu, nous voyons la même chose en ce qui nous concerne, parfois dans nos expériences chrétiennes. Dieu n'enlève pas toutes nos épreuves. Nous voyons aussi la prospérité de ceux qui ne suivent pas ses voies, tandis que les choses ne vont pas toujours bien sur un plan humain pour nous. Jérémie chapitre 14. Encore un exemple. Jérémie chapitre 14 et le verset 13. Je répondis, « Ah Seigneur éternel, je saute ici au milieu d'un contexte, mais pour illustrer un point, voici les prophètes le disent, vous ne verrez point d'épée, vous n'aurez point de famine, mais je vous donnerai dans ce lieu une paix assurée. » Et ici, nous voyons de nouveau l'amour de Jérémie pour son peuple. Il essaie jusqu'à un certain point de déculpabiliser le peuple en disant que c'est les prophètes qui l'ont enseigné des mensonges. Allons jusqu'à chapitre 15, Jérémie chapitre 15 et le verset 10. Jérémie chapitre 15 et le verset 10. Nous avons de nouveau ici une plainte, entre guillemets, de Jérémie, mais ça se comprend aussi très très bien dans le contexte dans lequel il vit, où il souffre, où il voit le péché de son peuple. Verset 10. Malheur, Jérémie chapitre 15, verset 10. Malheur à moi, ma mère, de ce que tu m'as fait naître. Homme de dispute et de querelle pour tout le pays, je n'emprunte ni ne prête. Et cependant, tous me maudissent. Il n'était pas coupable. Mais tous le maudissaient parce que Judas ne voulait pas entendre, ne voulait pas écouter ce que Jérémie disait de la part de l'Éternel. Et Dieu aussi entend ces paroles. Et c'était la force, justement, la grande force de Jérémie, c'est qu'il parlait. Il était découragé par moments. Il souffrait énormément, mais il s'est confié. Et il s'est confié aussi à Dieu. Verset 11. Dieu qui entend dit ceci, et c'est une des grandes bénédictions de Jérémie dans le contexte actuel, dans un contexte de souffrance, de guerre. de mort. Verset 11, l'Éternel dit, certes, tu auras un avenir heureux. Certes, je forcerai l'ennemi à t'adresser ses supplications au temps du malheur et au temps de la détresse. J'ai voulu vous lire ceci dans la traduction du rabbinat, où c'est marqué, l'Éternel répondit, je fais le serment, et nous voyons ici la grande bénédiction, donc dans ce temps de détresse, la grande bénédiction pour Jérémie. L'Éternel répondit, je fais le serment que ton avenir est marqué par le bonheur, que je contraindrai l'ennemi à l'heure de l'adversité et du danger à se tourner suppliant vers toi. Et dans le second, la version second 2007, nous lisons ceci. L'Éternel a dit, c'est certain, je te libérerai pour ton bonheur. Il parle donc de bonheur dans ce contexte. C'est une immense bénédiction. C'est certain, je te libérerai pour ton bonheur. J'amènerai l'ennemi à ta rencontre au moment du malheur et de la détresse. Jérémie connaissait l'abattement, le découragement. Il était par moments vraiment déprimé à cause du temps dans lequel il vivait, à cause de la situation. Mais Dieu était là. Et Jérémie se confiait à Dieu. Dieu lui répondait. Et à un moment donné, Jérusalem était pris. Et après avoir passé un certain temps en prison, Jérémie était enfin libéré. Par les Babyloniens, en plus. Il faut comprendre que les Babyloniens avaient des informations favorables à propos de Jérémie. Et peut-être même le considéraient comme un sympathisant. Le fait que Jérémie a donné du conseil à Juda de la part de Dieu, comme quoi il fallait se soumettre aux Babyloniens, même pendant les sièges, et ça avait été proclamé pendant si longtemps que probablement ça n'a pas pu échapper à l'attention des Babyloniens, aux autorités babyloniennes, et ils se sont rendus compte qu'il n'était pas une menace pour eux. Et c'est un paradoxe qu'il était mieux traité par l'ennemi, par les envahisseurs babyloniens, que par les gens de son propre pays, qu'il aimait tellement. Il était donc libéré avec la bénédiction des Chaldéens. Bon là, je ne vais pas vous donner tout le détail, mais par la suite, il y a eu un assassinat de celui que les Babyloniens avaient mis en place. Ismaël avait tué Guédalia. Il y a un verset intéressant dans chapitre 41 et le verset 10. 41, verset 10. Ismaël, donc celui qui avait tué Guédalia, fit prisonnier tous ceux qui étaient à Mitzpah, les filles du roi. Et je souligne le fait qu'ici nous voyons qu'il y avait les filles du roi qui étaient vivantes. Et tous ceux du peuple qui y demeuraient et que Nebuzaradan, chef des gardes, avait confié à Guédalia, fils d'Achikam. Ismaël, fils de Nathania, les emmena captifs et partit pour passer chez les Ammonites. Et là, il y a un autre groupe qui intervient, voyons dans le verset 11. Joshanan, fils de Kériach, et tous les chefs de troupes qui étaient avec lui furent informés de tout le mal qu'avait fait Ismaël, fils de Nathania. Ils prirent tous les hommes et se mirent en marche pour attaquer Ismaël, fils de Nathania. Ils le trouvèrent près de grandes eaux de Gabon. Ils sont intervenus, ils ont libéré les prisonniers, y compris les filles du roi. Et par la suite, nous voyons dans le chapitre 42 qu'ils se sont adressés à Jérémie. Qu'ils ont demandé à ce que Dieu leur réponde pour savoir ce qu'il fallait qu'ils fassent. Et Jérémie a dit qu'il allait demander à l'Éternel. Jérémie 42 et le verset 6, nous voyons la réaction du de ses chefs, de tout le monde, une fois que Jérémie a dit qu'il allait consulter l'Éternel pour eux, verset 6, « Que ce soit du bien ou du mal, nous obéirons à la voix de l'Éternel notre Dieu, vers qui nous t'envoyons, afin que nous soyons heureux si nous obéissons à la voix de l'Éternel notre Dieu. » Mais nous voyons par la suite leur endurcissement, le fait qu'ils n'étaient plus réceptifs, parce que quand l'Éternel leur a dit, quand Dieu leur a dit de ne pas aller en Égypte, à travers Jérémie donc, de ne pas aller en Égypte, ils n'ont pas accepté. Ils n'ont pas accepté ce que Jérémie a dit. Chapitre 43 et le verset 1. Chapitre 43, le verset 1, nous lisons ceci. « Lorsque Jérémie eut achevé de dire à tout le peuple toutes les paroles de l'Éternel le Dieu, toutes ces paroles que l'Éternel le Dieu l'avait chargé de le dire, Azaria, fils d'Osée, Josanan, fils de Kériach, et tous ces hommes orgueilleux, dirent à Jérémie, « Tu dis un mensonge, l'Éternel notre Dieu ne t'a point chargé de nous dire, n'allez pas en Égypte pour y demeurer. » Et pourtant, peu de temps avant, ils ont dit, nous obéirons à la voix de l'Éternel notre Dieu vers qui nous t'envoyons, afin que nous soyons heureux si nous obéissons à la voix de l'Éternel notre Dieu. La suite de l'histoire, toujours chapitre 43, verset 5. 43 et le verset 5. Et Josanna, fils de Kériach, et tous les chefs des troupes prirent tous les restes de Juda qui, après avoir été dispersés parmi toutes les nations, étaient revenus pour habiter le pays de Juda, les hommes, les femmes, les enfants, les filles du roi. Voilà que nous arrivons à, de nouveau, nous trouvons les filles du roi et toutes les personnes que Nebuzaradan, chef des gardes, avait laissées avec Guédalia, fils d'Achikam, fils de Chaphan, et aussi Jérémie le prophète et Baruch, fils de Nerija. Nous avons donc maintenant les filles du roi avec ces hommes et avec Jérémie et Baruch. Verset 7. Ils allèrent au pays d'Égypte, car ils n'obéirent pas à la voix de l'Éternel, et ils arrivèrent à Tachpanès. Et le récit biblique de Jérémie s'arrête en Égypte. Avant d'aller plus loin, parce qu'il y a un certain nombre de détails que nous pouvons souligner, mais avant d'aller plus loin, j'ai voulu juste aller au chapitre 45, Jérémie chapitre 45, où il est question de Baruch, parce que Baruch aussi avait une vie difficile, très difficile. C'était une période de guerre, une période de souffrance, une période de mort. Et Baruch aussi se plaint. Verset 3. Chapitre 45, le verset 3. Baruch, tu dis, malheur à moi, car l'Éternel ajoute le chagrin à ma douleur. Je m'épuise en soupirant. Je ne trouve point de repos. Dieu dit à Jérémie de lui dire, dis-lui, ainsi parle l'Éternel, voici ce que j'ai bâti. Donc, Dieu entend aussi les plaintes, les gémissements, les souffrances de Baruch. Verset 4. Dis-lui, ainsi parle l'Éternel, voici ce que j'ai bâti, je le détruirai. Ce que j'ai planté, je l'arracherai. Sa voix, tout se paie. Et toi, rechercheras-tu de grandes choses dans ces circonstances-là où il y a tellement de souffrances, tellement de guerres, tellement de gens tués. Et toi, rechercheras-tu de grandes choses? Ne les recherche pas. Ce n'est pas le moment de rechercher ces choses dans ce contexte. Car voici, je vais faire venir le malheur sur toute chair, dit l'Éternel, et je te donnerai ta vie pour butin dans tous les lieux où tu iras. Et de nouveau, nous voyons que Dieu a aussi donné la vie à Baruch. Pas uniquement à Jérémie, aussi à Baruch. Et c'est énorme d'avoir la vie sauve dans une telle situation. La vie, c'est l'essentiel. Et il fallait qu'il se contente de l'essentiel. Le fait d'être en vie, de rester en vie. Et c'était la même chose pour Jérémie. La même chose pour Jérémie. Nous avons déjà vu que Dieu a dit, je fais le serment que ton avenir est marqué par le bonheur. Et repentons-nous maintenant à Jérémie chapitre 1 et le verset 10. Jérémie chapitre 1 et le verset 10. Regarde, donc Dieu a établi la mission pour Jérémie au début de son ministère. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations, sur les royaumes, pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises. Et il devait donc, Jérémie devait prophétiser la destruction de sa propre nation, et ça s'appliquait aussi à d'autres peuples, d'autres nations. Mais regardons la fin du verset, verset 10. Pour que tu bâtisses, donc après cette ruine, après cette destruction, que tu bâtisses et que tu plantes. Il y avait un avenir, il y avait un futur. Maintenant, nous allons revenir sur deux promesses que Dieu a données et qu'il faut ajouter à ce que nous venons de lire dans Jérémie chapitre 1. La première promesse se trouve dans Genèse chapitre 49 et le verset 10. Genèse chapitre 49 et le verset 10 où nous lisons « Le sceptre ne s'éloignera point de Juda » C'est une promesse de la part de Dieu. « Ni le bâton souverain d'entre ses pieds jusqu'à ce que vienne le Shiloh et que les peuples lui obéissent. » Le sceptre est un symbole de la royauté et Shiloh, c'est le Messie. Donc, ça veut dire que la royauté n'allait jamais s'éloigner de Juda jusqu'à ce que le Messie vienne. Nous savons que David était un roi de Juda. Et regardons maintenant Jérémie chapitre 33, d'abord le verset 17. Jérémie 33 et le verset 17. Car ainsi parle l'Éternel, donc de nouvelles promesses de la part de Dieu, car ainsi parle l'Éternel, David ne manquera jamais d'un successeur assis sur le trône de la maison d'Israël. Il parle d'un successeur assis sur le trône de la maison d'Israël. Verset 20, Dieu revient sur ce même thème, dit d'une autre manière. Ainsi parle l'Éternel, si vous pouvez rompre mon alliance avec le jour et mon alliance avec la nuit, et on ne peut pas rompre l'alliance de Dieu avec le jour et avec la nuit, en sorte que le jour et la nuit ne soient plus en leur temps, alors aussi mon alliance sera rompue avec David, mon serviteur, de sorte qu'il n'y aura point de fils régnant sur son trône. Et le jour et la nuit continuent toujours. Dieu revient encore une fois dans le verset 25, toujours sur ce même thème. Ça appuie donc vraiment ce que Dieu a dit, cette promesse de la part de Dieu. Ainsi parle l'Éternel, si je n'ai pas fait mon alliance avec le jour et avec la nuit, si je n'ai pas établi les lois des cieux et de la terre, alors aussi, oh que Dieu l'a fait, alors aussi je rejetterai la postérité de Jacob et de David mon serviteur, et je ne prendrai plus dans sa postérité ceux qui domineront sur les descendants d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, car je ramènerai leurs captifs et j'aurai pitié d'eux. Donc Dieu a donné ici deux grandes promesses. Que le sceptre n'allait pas s'éloigner de Juda, qu'il y aura une dynastie qui allait suivre. Et Dieu a dit aussi que David ne manquera jamais d'un successeur assis sur le trône de la maison d'Israël. Nous avons donc ces deux promesses formelles de la part de Dieu. Mais lorsque nous lisons le dernier chapitre de Jérémie, chapitre 52, nous apprenons que Sédécias, le dernier roi de Juda, a été emmené en captivité et que ses fils, tous ses fils ont été tués sous ses yeux. Donc, comment réconcilier ces deux promesses avec le fait qu'il n'y a plus un héritier mâle en tant que successeur? Mais nous avons déjà vu Jérémie, il est en Égypte avec Baruch et avec les filles du roi. Donc, la dynastie n'est pas interrompue. De ce fait, Jérémie va pouvoir accomplir la dernière partie de sa mission qui consiste à, entre guillemets, bâtir et planter, comme nous avons vu tout à l'heure. Et la manière dont Jérémie planta une fille de Sédécias dans une nation israélite ne nous est pas révélée dans la Bible. Mais c'est là qu'on entre dans l'histoire séculaire. Et j'ai voulu vous lire un extrait. Bon, nous détaillons ceci dans la brochure que nous avons maintenant traduite en français, une clé essentielle pour comprendre les prophéties bibliques. Une clé essentielle pour comprendre les prophéties bibliques. Et à la page 51 de cette brochure, nous disons ceci. Bien que les détails de leur voyage, je saute au milieu d'un contexte, la page 51, bien que les détails de leur voyage ne nous soient pas connus, on spécule que Jérémie serait identifié dans les légendes irlandaises comme Olan, Fodia, devin et législateur. Ce qui est intéressant, c'est que Olam et Fodla sont des mots similaires au mot hébreu Olam, qui veut dire antiquité ou vieux, et Pala signifiant extraordinaire ou merveilleux. Plusieurs légendes lient cet homme avec un autre homme appelé Simon Brash, linguistiquement similaire au mot hébreu Baruch ou Baruch. Puis à une jeune princesse appelée Théa ou Tara, nom féminin signifiant palmier en hébreu. La signification de ce nom est intéressante quand on le compare à la prophétie d'Ézéchiel 17-22 où il est question d'un tendre rameau. Mais ce sont des détails et j'ai voulu justement vous mettre l'eau à la bouche un petit peu pour voir la suite et pour l'accomplissement de cette dernière mission de Jérémie. Et ces détails, justement, sont contenus dans cette brochure qui est maintenant imprimée, que nous avons imprimée en français. Une clé essentielle pour comprendre les prophéties bibliques. C'est une histoire fascinante où nous voyons l'accomplissement des promesses bibliques et comment Jérémie a pu bâtir et planter. Pour finir, j'ai voulu vous parler de l'espoir, parce qu'il y a beaucoup d'espoir aussi dans le livre de Jérémie, de l'espoir pour l'avenir. Et Jérémie mentionne justement plusieurs prophéties qui donnent de l'espoir. Pour aider le peuple de Dieu à travers leur période de captivité et même au-delà. Dieu a dit, dans Jérémie 29, que Dieu allait ramener une partie, un reste de Juda pour reconstruire Jérusalem et le temple. Dieu allait susciter un descendant de David pour servir Dieu et guider son peuple avec une référence au venu de Jésus-Christ dans Jérémie chapitre 33, verset 14. Je lis, « Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où j'accomplirai la bonne parole que j'ai dite sur la maison d'Israël et sur la maison de Juda. En ce temps, en ces jours, en ce temps-là, je ferai éclore à David un germe de justice. Il pratiquera la justice et l'équité dans le pays. Et en ce jour-là, Juda sera sauvé. Jérusalem aura la sécurité dans sa demeure. Et voici comment on l'appellera l'Éternel, notre justice. » Une époque future. Et Dieu a aussi promis qu'il allait ramener un reste à Israël une deuxième fois et qu'il allait réunir les deux royaumes d'Israël et de Juda ensemble en tant qu'un peuple unifié dans le royaume de Dieu. Jérémie chapitre 3, à partir du verset 17, décrit une époque future qui n'est pas encore arrivée. Jérémie chapitre 3 et le verset 17. En ce temps-là, on appellera Jérusalem le trône de l'Éternel. Toutes les nations s'assembleront à Jérusalem au nom de l'Éternel et elles ne suivront plus les penchants de leur mauvais cœur. Une époque très encourageante qui est annoncée ici. Verset 18. En ces jours, la maison de Juda marchera avec la maison d'Israël. Elles viendront ensemble du pays du Septentrion au pays dont j'ai donné la possession à vos pères. Et puis, il y a aussi le fait que Dieu va guérir les blessures spirituelles de son peuple. Il va restaurer son alliance avec eux et il va planter de nouveau son peuple Israël. Dans Jérémie chapitre 32 et le verset 38. Jérémie chapitre 32 et le verset 38. Nous lisons ceci. Ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. Je leur donnerai un même cœur et une même voix afin qu'ils me craignent toujours pour leur bonheur et celui de leurs enfants après eux. Je traiterai avec eux une alliance éternelle. Je ne me détournerai plus d'eux et je leur ferai du bien. Et je mettrai ma crainte dans leur cœur afin qu'ils ne s'éloignent pas de moi. Ils ne seront plus un peuple qui s'endurcisse dans le péché comme nous avons vu tout à l'heure. Et ce qui est vraiment encourageant, c'est le fait que Dieu a dit que si les gens changeaient, si les gens se repentaient de leur péché, Dieu aussi allait changer. Dans Jérémie 18 et le verset 7. Soudain, je parle sur une nation, sur un royaume, d'arracher, d'abattre et de détruire. Mais si cette nation sur laquelle j'ai parlé revient de sa méchanceté, je me repens du mal que j'avais pensé lui faire. Dieu donne toujours l'espoir. Dieu nous offre toujours l'espoir. Même quand nous nous écartons de sa voie, quand nous péchons, si nous sommes disposés à revenir vers Dieu, Dieu va aussi agir avec nous. Il va nous pardonner et il va nous bénir. Jérémie a dû développer la patience, la persévérance à travers les épreuves qu'il a eues. Nous aussi, il nous faut développer la patience et la persévérance à travers nos moments difficiles. Mais ce qui est remarquable dans la vie de Jérémie, c'est à quel point il s'est confié à Dieu. Tout parent qui aime son enfant aime aussi que son enfant partage avec lui, avec eux, ses deux parents, ses joies, ses souffrances, ses peines, ses bénédictions. Il a plaisir de l'entendre partager. Et il peut aussi se réjouir avec lui ou avec elle et compatir avec lui ou avec elle. Et Dieu a veillé sur Jérémie. Dieu l'a délivré, Dieu l'a béni. Nous aussi, Dieu veille sur nous, Dieu peut nous délivrer, va nous délivrer quand nous lui faisons confiance. Mais Dieu veut aussi que nous apprenions les leçons dans la vie quand c'est nécessaire pour que nous puissions nous repentir et se tourner vers lui. Nous pouvons lire le livre de Jérémie avec une autre optique en tête. Parce que dans Jérémie, il y a un avenir. Et nous aussi, nous avons un avenir merveilleux devant nous.